Radio Campus Angers, bonsoir à tous, il est 19h, l'heure des informations. Trac géant cet après-midi à Paris après qu'un homme a tiré sur un photographe dans le hall de Libération ce matin. François Hollande demande l'arrêt total et définitif de la colonisation en Israël. Combat de femmes pour la présidentielle au Chili. La famille Chenet se déchire sur fond de mariage pour tous et des apprentis dentistes se marrent en se déguisant en terroristes. Vous avez déjà vu une série américaine dans laquelle un personnage regarde une traque à la télé avec hélico, caméra embarquée, gyrophare et tout le toutim. Et vous disiez sans doute pourquoi on n'a pas fait ça en France. Stop, on cesse de geindre, cet après-midi vous avez pu suivre la traque d'un homme au crâne rasé de forte corpulence âgé d'une quarantaine d'années. Ce matin vers 10h15, un homme est ainsi entré dans le hall du journal Libération et a tiré sur un assistant photographe du journal. L'assistant a été grièvement blessé et son pronostic vital a été engagé. Très vite, les grands médias de la capitale ont été mis sous surveillance policière. Vendredi dernier, c'est à BFM TV que celui qui semble être le même homme avait menacé deux journalistes. Ce matin, toujours à Paris, dans le quartier de la Défense, des tirs ont également résonné au siège de la Société Générale. Le lien pourrait être établi entre les deux hommes, qui seraient le même homme. Cet après-midi, c'est le site internet de Libé qui a été victime d'une attaque informatique. Bonne ambiance donc dans les rédactions parisiennes. La une de demain devrait être léchée. Il est en voyage en Israël pendant 3 jours. François Hollande a fait une halte à Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne aujourd'hui, pour une conférence de presse avec Mahmoud Abbas. François Hollande a demandé l'arrêt total et définitif de la colonisation. Grosse prise de risque, la veille avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, il avait refusé de qualifier d'illégitimes les implantations. Le souci quand on est président, c'est qu'il faut tenter de faire plaisir à tout le monde. Ce sera un combat de femmes. Le deuxième tour de la présidentielle au Chili verra s'affronter à ma droite Evelyne Matthei et à ma gauche Michelle Bachelet, ancienne présidente socialiste. La seconde, qui souhaite légaliser l'avortement et ouvrir le débat sur l'union entre personnes de même sexe, est donnée grande favorite. Mais il faudra attendre le 15 décembre pour en être sûre. Il est rentré à la maison, Francis Colomb, l'ancien otage au Nigeria, a atterri ce matin à Paris. L'ingénieur, enlevé par un groupe islamiste en décembre dernier, s'est évadé. Il aurait profité d'un temps de prière de ses ravisseurs pour se faire la malle en moto-taxi. Sa femme, qui habite à La Réunion, aurait lâché en apprenant la nouvelle. Vous voyez, il est pas couillon, mon Francis. Preuve de son amour toujours intense. Dans la famille Chenet, je demande la fille, Lise, 47 ans, fille de Dick Chenet, l'ancien vice-président de George W. Bush, brigue le poste de sénateur républicain of course. Lise Chenet s'est prononcée contre le mariage gay hier. Hic, sa sœur, Marie Chenet, se trouve être lesbienne et mariée depuis 2012. Et comme chez les Chenet, le linge sale se lave avec tout le monde, Marie Chenet s'est empressée de lui répondre sur sa page Facebook. Lise, ce n'est pas seulement un sujet sur lequel nous sommes en désaccord, c'est un sujet sur lequel tu te trompes complètement et sur lequel tu es du mauvais côté de l'histoire. Ça va être mignon Thanksgiving chez les Chenet. Ils sont jeunes, ils seront bientôt dentistes et ils ont de l'humour. Hier, 4 étudiants en médecine dentaire se sont promenés dans l'hôpital de Nice déguisés en terroristes. LOL. L'équipement comprenait des accessoires farcés à trappe genre Kalachnikov. Une quarantaine de policiers ont été mobilisés jusqu'à ce qu'ils voient sortir 3 jeunes munis d'un sac blindé de 40 armes en plastique. D'après l'un de leurs collègues étudiants, les farceurs préparaient une vidéo en vue d'un rallye. Toujours d'après ce collègue, ils sont allés trop loin, ils n'ont juste pas réfléchi. C'est dommage car ils étaient aujourd'hui toujours en garde à vue et risquent une exclusion partielle, voire définitive, des universités françaises. Radio Campus Angers, il est l'heure de chasser les ballasts et de tenir l'immersion, l'heure d'entrer dans le sous-marin. Il paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune, bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité, du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffen, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Baptiste, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Ce soir au sommaire du sous-marin, 6 mois après la promulgation de la loi pour le mariage pour tous, appelée aussi parfois loi Taubira, nous avons voulu en faire un premier bilan avec Stéphane Corbin, président de l'association Quasar, le centre LGBT, lesbien, gay, bi, trans, d'Angers. Nous avons également voulu entendre les veilleurs, c'est pourquoi dans une seconde partie d'émission, vous entendrez Thibaut Ries, responsable de la communication pour les veilleurs, ces anti-mariages pour tous, qui se réunissent fréquemment pour protester pacifiquement contre la loi Taubira. Anne-Marie décryptera pour nous un terme économique que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, tu évoqueras la Fed, c'est ça ?
C'est ça.
Merci Anne-Marie de nous faire comprendre un petit peu des choses obscures. Charlotte et Julien, sur leurs deux jambes chacun, malgré un week-end noir, nous parlerons sport. Merci d'avoir fait l'effort de quitter votre pyjama de déprime pour venir en studio avec nous.
Oui, et on a eu du boulot.
Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée en juin et la bulle sonore. Ce soir, nous passerons 2 minutes en compagnie des veilleurs avec un reportage qui date de juin dernier. Mais tout de suite, on accueille Baptiste pour son premier micro partiel de la saison. Baptiste, tu vas tenter de trouver des solutions à François Hollande qui ne va pas fort en ce moment.
En effet, il est devenu ce mois dernier le président le plus impopulaire de la 5ème République française, selon un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. Sur plan politique, lorsque ses actions ne passent pas inaperçues comme son refus d'affirmer l'indépendance nucléaire à l'Iran, elles sont constamment contestées sans ménage avec fureur. Le monde du ballon rond et sa taxation de 75%, les bonnets rouges et l'écotaxe, la réforme des retraites alignée sur son prédécesseur et le syndicat Force Ouvrière, partisans de la manif pour tous et le mariage pour tous, etc. Heureusement pour lui, ce mécontentement ne trouve pas encore une uniformité en la personne d'un responsable politique malgré les tentations de récupération du FN, de l'UMP et du Front de Gauche. Si Nicolas Sarkozy gênait les Français par son omniprésence people et bling-bling, c'est bien le bling-bling des casseroles et des couacs que François Hollande balade. De l'affaire Cahuzac jusqu'à la maladresse du traitement de la lycéenne exilée Leonarda, en passant par le désaccord politique du ministre de l'écologie Delphine Batteau avec le gouvernement, le président de la République s'est totalement décrédibilisé auprès d'une partie des Français. Que peut-il faire ? Eh bien à cela, il y a 3 possibilités qui se dégagent devant lui. Tout d'abord, un remaniement de son gouvernement. Comme dirait mon prof d'institution politique, Hollande a sélectionné un gouvernement d'incompétents pour qu'aucun ne lui vole la vedette. Pourtant, il y a des socialistes aujourd'hui qui sont désirés par les Français. C'est le cas par exemple de Lionel Jospin, Jack Lang ou encore Martine Aubry. Mais non, Hollande est un bon héritier d'Henri Queuille, député radical socialiste de la Corrèze sous la Troisième République, qui disait « Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout ». Il a pourtant de bons gars autour de lui, François Hollande, le genou de la banque Rothschild, ex-associé du philosophe Paul Ricoeur, diplômé de l'ENA et adepte de la boxe française Emmanuel Macron, son secrétaire général de l'Élysée. C'est celui qui crève l'écran dans le film documentaire de Patrick Rothman, Le Pouvoir. Oui, mais trop de charisme, trop de concurrence. C'est la même chose avec le choix d'un Premier ministre. Aujourd'hui, Manuel Valls est le socialiste préféré des Français. Pourquoi ne pas le mettre au poste de chef du gouvernement ? Eh bien, en bon chiracien, dans sa pratique du pouvoir, Hollande sait que 2 lions dans la même arène est contre-productif et surtout dangereux. Il pourrait aussi faire un référendum. Oui, mais sur quoi ? La Constitution établissant déjà un cadre très restrictif dans le sujet du plébiscite, le président ne se voit pas prendre de risque d'un tel acte sur des questions européennes et économiques dont il est presque sûr que celles-ci seront répondues de manière négative. D'autre part, le peuple va pouvoir s'exprimer en très peu de temps avec les municipales de 2014. Pourquoi prendrait-il le risque d'accélérer cette échéance alors que dans le même temps, tout est fait pour réduire la montée de son principal concurrent à droite, le Front National ? En effet, on remarque bien qu'il y a véritablement un travail en France pour réduire cette envolée du nationalisme. Enfin, Hollande pourrait bien dissoudre l'Assemblée nationale. C'est en tout cas l'une des options préférées des Français selon un sondage du Figaro. L'utilisation de l'article 12 de la Constitution devrait être appuyée par un certain facteur conséquent. Il faudrait par exemple que ce soit une convenance personnelle, c'est-à-dire la nécessité d'une majorité, ou bien la prolongation d'une majorité comme le faisait Tonton Mitterrand. Oui, mais cette majorité, François Hollande l'a déjà. De plus, le nouveau calendrier électoral fait que les élections présidentielles et les élections législatives se superposent par l'instauration du quinquennat, ce qui rend inutile l'idée d'une prolongation de la majorité. De toute façon, quoi qu'on puisse lui reprocher, Hollande ne voit pas si loin, ce n'est pas un carriériste comme le tonton. Cette dissolution pourrait donc être la réponse démocratique à ces mouvements contestataires, cette fracture entre les dirigeants et les Français. Oui, mais il ne faut pas exagérer, ce n'est pas mai 68. Il n'y a pas 10 millions de grévistes, des voitures retournées dans les rues de Paris et sous les pavés, la plage. Alors, c'est dommage pour Marine Le Pen, qui, trop pressée de toucher au pouvoir, demandait cette dissolution.
Merci Baptiste pour ce premier passage au micro. Tout de suite, on va écouter un petit peu de musique. Et vous écoutiez Flume avec Holding On.
Les chants qu'on a sont souvent des chants...
C'était il y a 6 mois, après d'innombrables unes de journaux, après les 5000 amendements déposés par les députés, après Frigide Barjot, après les t-shirts de la Manif pour tous, après le discours de Christiane Taubira le 23 avril dernier. C'était il y a 6 mois, le mariage pour les personnes homosexuelles était proclamé. Pour dresser un premier bilan, nous accueillons Stéphane Corbin de l'association Quasar, l'association LGBT. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Mais de rien.
Et nous entendrons ensuite Thibaut Ries du mouvement des veilleurs. Mais avant toute chose, voilà le micro-trottoir d'Alice qui allait demander aux Angevins leur avis sur la question.
Je trouve que tout le monde doit avoir les mêmes droits. Même si, enfin, à l'origine, je ne suis pas pour le mariage, mais du moment qu'il existe, autant que tous les gens aient les mêmes droits, c'est normal. On est égaux quand même. Les gens n'ont toujours pas accepté ça, alors que bah, certains, voilà, peut-être qu'ils vont peut-être en avoir marre et à ce moment-là, ils arrêteront quand ils verront que ça ne sert à rien. Mais je pense que ça intimide toujours... ceux qui veulent se marier ou quoi. Et je pense que cette loi, ça va faire sortir les tensions qui existent déjà à l'origine.
J'ai pas mal d'amis qui sont gays, et puis je vois pas vraiment à quoi ça pourrait déranger du moment qu'ils font ce qu'ils veulent. Bah, c'est étonnant parce que on est libre de faire ce qu'on veut, que les gens soient pour ou contre, ils le gardent pour eux, mais c'est pas la peine de faire des manifestations contre, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent.
Moi j'ai aucun jugement, les gens ils font comme ils veulent, l'égalité quoi. Non, je pense pas que ça sert à quelque chose de faire autant de bruit pour quelque chose qui est... Enfin, qui est pour moi pas si grave que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Pour moi, ça prend trop d'ampleur.
Je suis pour le mariage. Ceux qui sont, ceux qui se déchaînent comme ça contre le mariage, alors qu'à la base, c'est un droit. Enfin, on est censé être tous égaux, donc forcément, enfin, pour moi, l'égalité, ça passe aussi par là, par le fait de qu'on puisse tous se marier, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ceux qui s'acharnent contre le mariage pour tous, c'est qu'ils sont un peu, enfin, ils sont haineux, quoi. Ils ont, enfin, ils ont besoin d'avoir des privilèges, je sais pas. Ou c'est des élites qui estiment y avoir le plus de droits que les autres.
Je suis plutôt contre le mariage gay, parce que le mariage gay entraîne du coup des couples gays qui seront en capacité d'adopter ou de faire des enfants par le biais des trucs chimiques. Ça fait qu'il va y avoir des enfants qui vont avoir des parents du même sexe. Ça peut déséquilibrer un enfant et... C'est pas justifié, je trouve. En fait, je trouve ça assez égoïste de se marier et d'avoir des enfants. C'est assez égoïste, c'est pas penser à l'avenir de son gosse.
Alors, c'est assez égoïste. Je vous voyais rire, Stéphane Cordon. Vous avez une réaction sur ce micro?
Oui, non, c'est le côté truc chimique. Faut rappeler à ce garçon que nous naissons de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, et c'est ça le truc chimique, c'est pas autre chose.
Ah, ça fait 6 mois que la loi a été promulguée.
Oui.
Est-ce que vous avez un chiffre concernant le nombre de mariages?
Alors, il se dit, d'après certaines études, mais dont on n'a pas, nous, la vérification, qu'il y aurait un peu plus de 600 mariages à travers la France, avec des villes en pointe comme Paris, Nice et d'autres. Je vais vous dire, nous, en tant qu'association militante qui parlons de ce que nous connaissons, c'est-à-dire de nos vies, c'est pas le sujet et c'est pas important. Ce qui était important, c'était que l'égalité soit au menu de la vie et au quotidien de chaque citoyen et de chaque citoyenne, y compris de ceux qui sont lesbiennes, gays ou bi ou trans, puisque même les trans peuvent se marier du fait de cette loi, et tant mieux. Et en réalité, beaucoup de journalistes nous ont questionnés sur ça, nous disant « mais on s'attendait à quelque chose qui soit une sorte de déferlante ». Ben, pour une raison très simple, ça ne peut pas l'être, parce que une loi qui a 6 mois, lorsqu'on sait que certains ou certaines préparent des mariages au bout d'un an, un an et demi, on n'est pas encore dans le taquet d'avoir tout préparé. Et puis ensuite, de toute façon, nous avons toujours dit, et ça c'est une réalité, que l'ensemble de nos couples ne se marieraient pas en masse. Par exemple, moi je suis le président d'une association Quasar, qui est le centre lesbien, gay, bi, trans d'Angers, et avec mon compagnon, nous ne souhaitons pas nous marier, pour des raisons personnelles. Parce que c'était ça aussi l'égalité. Le droit de dire « je me marie » ou « je choisis de ne pas me marier ». Jusqu'à maintenant, nous avions l'interdiction de nous marier. C'est pas la même chose.
Alors, qu'est-ce que ça a changé dans le regard des gens, cette loi ?
Je crois que ce qui va changer, parce que c'est en cours d'évolution tout cela, c'est que tous ceux qui sont haineux, comme l'a très fortement remarqué une des interlocutrices de votre micro-trottoir, ils l'ont mauvaise, évidemment, et on voit bien là où c'est arrivé. C'est-à-dire qu'après l'homophobie verbale ou comportementale, parce que c'est ça aussi ce que ça a changé dans le débat, c'est-à-dire qu'on avait une définition juridique de l'homophobie. Le mot n'existe pas dans la loi, je vous le rappelle, c'est simplement une discrimination à raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la personne que vous avez en face de vous, et ça peut s'exercer sous le biais d'un refus de biens et services, ou d'insultes, ou de diffamations, ou d'appels à la violence, ou vraiment de violence physique. C'est ça l'homophobie juridique et judiciaire. Mais il y en a une deuxième maintenant définition. C'est simplement le fait de s'opposer à ce que d'autres citoyens aient l'égalité et les mêmes droits que vous-même. Et c'est ça la nouvelle définition de l'homophobie.
Donc pour vous, les membres de la manif pour tous, les membres des veilleurs sont des homophobes, même s'ils prétendent le contraire.
Selon la définition qui est celle, la deuxième que je viens de vous donner, c'est-à-dire s'opposer à l'égalité pour quel que soit l'argument, effectivement, c'est une définition de l'homophobie. Et je termine là-dessus en disant simplement, vous l'avez vu, le glissement. On arrive d'un refus d'égalité aux personnes, à le fait de viser une personne, en l'occurrence la ministre de la Justice, et comme on voit qu'on n'a pas réussi à faire plier le gouvernement et cette femme qui a tenu bon, eh bien on déboule sur l'insulte raciste. C'est ça le cheminement. Parce que dites-vous bien qu'antisémitisme, racisme, homophobie et les 19 totaux critères qui existent et qui sont illégaux, eh bien, ont le même schéma. La discrimination, c'est toujours pointer l'autre dans un critère, dans une différence, le dénoncer comme tel et lui nuire et volontairement le faire.
Donc vous parliez de personnes qui refusaient que d'autres personnes aient les mêmes droits,
oui,
qu'il y ait une certaine égalité. Il y a encore des mères qui refusent de marier des couples homosexuels et qui invoquent leur liberté de conscience. Mm-hmm. Le Conseil constitutionnel a pourtant refusé la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça aurait changé s'il avait été accepté?
Ah mais c'est impossible que ça soit accepté, Tiffaine. C'est totalement impossible pour une raison, c'est que si le Conseil, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avaient à un moment ou un autre dit, eh bien oui, ils ont un espace de liberté par rapport à leurs convictions religieuses, parce que le problème de toute la discussion du mariage, il est là, c'est que nous avons en face de nous des gens qui sont dans la grande majorité des croyants catholiques, voire d'une expression de leur foi très intégriste pour certains. Certains ne se reconnaissent pas dans cette description, certes, mais c'est pourtant l'occasion de le dire et de le rappeler. Et que dans cette réalité-là, on voit bien que les mères publiquement de marier les couples, parce que si la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel avait dit l'exact contraire, c'est tout le pilier de la lutte contre la discrimination qui s'effondrait, et ça, c'est pas possible. Et ça ramène au racisme. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle quand même qu'il y a deux sénateurs de Maine-et-Loire, Madame de Roche et Christophe Béchu, qui ont signé une proposition de loi émanant des Antilles, évidemment, pour dire de créer dans la loi, par le biais d'une loi adaptée, justement cette liberté de conscience. Eh bien, moi je vous dis que si jamais cela arrivait par le biais de cette proposition de loi, ça voudrait dire que demain, je quitte l'homosexualité, je rentre dans la vie quotidienne et aujourd'hui avec ce qui se passe, ça voudrait dire qu'un maire pourrait dire, eh bien voilà, monsieur et madame qui allez vous marier, couple hétérosexuel, donc normalement tout leur convient, je ne vais pas vous marier parce que vous avez des noms qui sont d'origine étrangère. Le racisme entrera aussi par le biais d'une telle disposition. À moins que nos amis, y compris opposants, souhaitent effectivement n'avoir que le critère de l'homosexualité, ce qui serait une double supérieure discrimination dans la discrimination et dans ce qui existe.
On va revenir sur la loi qui a été votée, oui, qui prévoyait initialement un amendement concernant la GPA et la PMA,
oui,
qui a été retiré.
Alors non, il faut préciser les choses. C'était la procréation médicalement assistée, la PMA, que nous demandions. La GPA n'a jamais été le projet de loi
elle
initial.
Elle a fait partie du débat.
Il a été question de la GPA, mais y compris nous n'avions absolument pas demandé à ce que la GPA soit dans le débat public à l'occasion de cette discussion de l'ouverture du mariage. D'ailleurs, je voudrais vous dire, vous avez dans votre chapeau d'ouverture dit une chose très juste, ce n'est pas le mariage gay, c'est le mariage des personnes homosexuelles éventuellement, ou des couples homosexuels. Il n'y a jamais eu de mariage gay, on n'a jamais réclamé, nous, un mariage spécifique. On demandait l'ouverture de ce qui existait déjà, appliqué aux couples de même sexe. Et donc c'est important de le dire, parce que cette sémantique-là a aussi creusé un sillon de l'empêchement et de la volonté de s'opposer. Quant à la PMA, pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je rappelle en deux mots pourquoi. Parce que la PMA, la procréation médicalement assistée, aujourd'hui, est ouverte aux couples hétérosexuels et nous en sommes tout à fait partisans. Les critères sont pour les couples d'être infertiles ou de risquer de transmettre une maladie grave à l'enfant. Mais ce que peu de gens ont dit, c'est qu'à ce jour, il y a des couples hétérosexuels dont la médecine aujourd'hui n'a pas réussi à prouver scientifiquement l'infertilité, et pourtant ils vont entrer dans ce protocole, avoir un ou des enfants de par le protocole de procréation médicalement assistée, et quelquefois, et tant mieux, ces mêmes couples vont avoir par voie naturelle d'autres enfants après, parce qu'il y a eu un déclic de quelque chose. Et nous disons tant mieux. Donc cette réalité qui existe, de nous dire non, ce n'est ouvert qu'à des cas d'infertilité et de risque de transmission, ce n'est pas toujours exact. Donc ce qui est possible pour les uns doit être possible pour les autres.
Le débat sur la PMA, il aura lieu Christiane Daubira en a parlé.
C'est très compliqué parce que nous avons un gouvernement qui, politiquement, a fait beaucoup, beaucoup de reculades. Je vous rappelle, pendant les débats à l'Assemblée, Dominique Bertinotti, qui est ministre de la Famille, chargé de la Famille, s'est quand même fait retoquer à des milliers de kilomètres de distance par le Premier ministre qui était en visite à l'étranger. Ça laisse des traces, ça. C'était le signal pour les opposants que ce gouvernement n'est pas assuré de ses réponses. Et nous, on le déplore énormément, parce que dans ce débat qui a eu lieu, il était urgent que tout soit posé sur la table et voté d'une seule emblée. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? C'est que nous entrons 2014 dans deux échéances électorales et municipales et européennes. L'année 2015, ça sera encore deux échéances électorales avec les sénatoriales, mais le Maine-et-Loire n'est pas concerné. Et puis une autre. On voit mal dans ces conditions-là comment un gouvernement, avec les hésitations, les retournements et les craintes qui sont les siennes, en fait, c'est un gouvernement qui d'une certaine façon, a peur à l'encontre d'une certaines révoltes et manifestations à l'encontre. Alors, quand vous voyez sur les thématiques économiques maintenant, c'est encore pire.
Donc vous êtes plutôt sceptique sur cette question-là. Vous pensez que ça sera repoussé après toutes les échéances électorales ?
Écoutez, nous, on se bat pour que ça soit toujours dans ce quinquennat, mais très concrètement, ça va être compliqué.
Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui réclament un papa et une maman pour tous les enfants avec des arguments qui sont les leurs, mais que j'entends,
mais auxquels, alors, en quelques secondes...
Qu'il faut un papa et une maman pour se construire, parce qu'il faut qu'un enfant se reconnaisse dans les deux sexes.
Vous savez, il faut vraiment avoir le temps de la discussion par rapport à ça. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, donc, comme je le disais, d'une rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ça, c'est tout à fait évident. Après, pour la construction, on est dans une idéation de la famille aujourd'hui. Il n'existe pas une famille, il existe plein de modèles de famille. Or, les opposants ne le prennent pas en compte. Ce qu'ils promeuvent eux-mêmes, c'est une famille avec l'idée qui est la leur, c'est-à-dire d'un modèle catholique. Or, aujourd'hui, plus de la moitié des enfants en France naissent en dehors mariage et quelquefois vivent dans le cadre de familles recomposées. Certains n'ont plus contact avec leur père ou avec leur mère et pour autant ils sont toujours les fils de leur mère et de leur père. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui qu'on fait famille et qu'on se construit bien, des fois mal, enfin des fois de travers, avec beaucoup de difficultés, dans une société qui a pris en compte tous ces modèles. Et ces modèles, le modèle de la famille homoparentale en fait partie. Je crois que ce qui a fait beaucoup souffrir aussi les enfants nés de ces couples homosexuels, tant hommes que femmes, c'est de s'entendre dire, alors ils l'ont créé, leur réponse avec des vidéos qu'ils ont postées sur YouTube ou autre, pour dire, nous on est une famille très différente des autres, mais on est à l'aise dans nos baskets et on a nos pères, nos mères, on a nos référents paternels et maternels qui sont là, et ce sont des réponses. Après, on peut toujours être dans l'idéation de quelque chose, dans l'idéalisation d'une famille. C'est merveilleux, mais en même temps, c'est exclure ceux qui vivent ces réalités.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec justement les opposants à la loi Taubira ?
Écoutez, nous avons lancé des appels à l'Église catholique, qui était très en du combat et des débats. Le seul débat que j'ai eu, c'est ici à ce micro, dans l'ancien studio où j'avais été invité.
Par Antoine à l'époque.
Voilà, et il y avait un représentant de l'évêché, on a échangé très cordialement, en postant clairement nos différends, mais véritablement, c'était pas le but de la discussion, enfin, c'était d'asséner une vérité, la vérité de l'Église d'une certaine façon, et je le dis encore avec d'autant plus de décontraction que je suis moi-même catholique pratiquant, donc je connais la maison, je connais l'argumentation de l'institution Église, et il y a tellement de choses à dire.
Ça veut dire que vous estimez que dans les opposants mariage pour tous, il y a uniquement des personnes catholiques ?
Non, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne le sont pas, mais parmi les veilleurs et parmi tous ceux, les derniers qui se sont exprimés, oui, bien sûr, c'est cette frange la plus rigoriste et la plus dure. Certains emploient le mot d'intégrisme. Bon, ça revêt différentes situations, différentes réalités de vie, certes, mais ça en fait partie, oui.
Comment ça s'est déroulé la Gay Pride cette année, dans cette ambiance ? C'était en juin ?
La Lesbian Gay Pride à Angers, que nous organisons tous les ans, s'est déroulée en juin avec une satisfaction quant à la réalité de la possibilité de pouvoir se marier pour les couples qui le souhaitaient de chez nous, mais avec le positionnement qui était de dire, pour autant le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas sur l'égalité parce que ce que je rappelle aussi à l'occasion, c'est que même si le mariage est possible, il ne crée pas de lien de filiation comme le mariage hétérosexuel le permet. Et pour nos couples, c'est une vraie difficulté parce qu'on est obligé de passer par tout un circuit processus d'adoption qui est très long et très pénible. Moi, je dis toujours, le droit de la famille est quelque chose qui est finalement mal connu par nos concitoyens et concitoyennes. C'est normal, c'est compliqué. Et que ce que eux devraient vivre dans leur quotidien, en se mettant à notre place et en vivant les mêmes choses, je pense que très sérieusement, ils comprendraient. Et ils comprendraient la réalité, la nécessité de ce lien de filiation. Il y a la procréation médicalement assistée. Et puis, le troisième point pour nous qui est absolument très, très important, c'est le point du changement d'état civil des personnes transgenres, transsexuelles si vous préférez, c'est-à-dire d'avoir dans le quotidien des papiers d'identité qui correspondent, qui reflètent votre identité sociale. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler, qui n'arrivent pas à être dans le quotidien des citoyens et des citoyennes à part entière. Et ça, c'est un très gros problème.
Pour revenir sur la loi Taubira, quel est le climat aujourd'hui au sein de la communauté LGBT que vous représentez ce soir? Quel est le climat aussi par rapport au regard...
Alors, je vais vous répondre, Tiffaine. D'abord, il y a un mot que nous n'utilisons jamais, c'est le mot « communauté ». Nous ne sommes pas une communauté. Ceux qui l'utilisent veulent exprimer une autre idée. C'est-à-dire que je peux parler de sentiments communautaires très facilement. C'est-à-dire le fait d'appartenir et de se reconnaître parce qu'on vit quelque chose de commun. Ça, c'est communautaire et ça, le mot, je l'accepte. Dans le terme communauté, il y a quelque chose qui me dérange parce que ça voudrait dire qu'il faudrait être traité différemment. Et ça, nous, on ne le souhaite pas.
J'ai fait une erreur de vocabulaire.
Non, mais c'est pas grave. Je vous reproche pas. Hein. Vous avez vu, je suis gentil. Je veux tout ça tout bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que très souvent les journalistes utilisent les termes mariage gay et communauté pour dire l'ensemble des homosexuels. Alors d'abord, j'avais prétendu reconnaître et parler au nom de l'ensemble des homosexuels, mais enfin on parle quand même en connaissance de cause. Est-ce que ça a changé ? Ça a apporté une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est qu'il y a beaucoup de gens, alors je trouve pas d'autres mots pour vous l'exprimer, mais qui ont beaucoup souffert et qui souffrent beaucoup de cette opposition systématique et de cette expression de l'opposition, parce que quelque part, à travers les manifestations, les veilleurs là, qui se sont étiolés, mais c'était couru d'avance, donc ça, il n'y a pas de surprise.
C'est qui sont toujours là, pourtant.
Oui, mais bon, là, quelques-uns, quelques-unes, très bien, laissez-les vivre. Parfait. Je suis pour la prière, mais en connaissant la chose, voilà, je veux dire, ça peut se faire aussi dans d'autres circonstances. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que systématiquement, ça rappuie sur quelque chose, c'est que vous, homosexuels, on estime que vous ne devez pas être traités de la même façon et positivement. Et donc, ça fait toujours, ça touche toujours, en tout cas, un certain nombre de personnes. Et puis, pour les vieux briscards comme nous, ça nous mobilise et ça nous rend tout à fait légitime d'être sur l'action et de continuer.
On parlait des veilleurs tout de suite, justement. Ce matin, on a rencontré Thibaut Reyes, qui est le responsable de la communication au sein des veilleurs à Angers. Donc les veilleurs, pour rappeler, ils veillent bougies allumées depuis le printemps dernier, tous les mercredis au début. Et puis, il y a eu une pause pendant l'été. Ils ont repris doucement au printemps. Ils sont passés à la fréquence d'une fois par mois. Ils sont revenus place du ralliement. C'est à ne pas confondre avec la manif pour tous, précise Thibaut Reyes, qui, elle, est plutôt liée à l'actualité. Les veilleurs, eux, sont plus, je cite, dans une action de continuité et de réflexion plus générale sur la société et sur la place de la famille. Toujours selon Thibaut Reyes, il évoque ici ses derniers mois de bataille toujours pacifique. Il revendique ce côté pacifique. Thibaut Reyes est dans le sous-marin. C'est une interview qui a été enregistrée ce matin.
Les chants qu'on a sont souvent des chants, on l'a entendu, on nous dit « oui, vous avez choisi des cantiques d'église ». Alors ce ne sont pas des chants qui sont chantés lors de la messe ou lors de différents offices. Après, leur connotation, c'est souvent des chants assez anciens et à une époque où en France on avait où le vocabulaire et la pensée chrétienne étaient très présentes. Forcément, on les retrouve. Effectivement, le chant de l'espérance a cette connotation. Pour autant, ça fait pas d'éveilleur un mouvement religieux, quoi. Ce débat sur le mariage pour tous, il dépasse notre religion ou notre point de vue politique. C'est un débat de société, c'est ce qu'avait dit Madame Taubira. Et du coup, on ne veut pas le limiter au simple domaine religieux. Pour autant, on ne peut pas nier qu'il y a parmi les veilleurs des catholiques. Mais c'est différent. L'engagement qu'il y ait, il dépasse vraiment notre point de vue religieux.
Vous espérez encore que la loi soit abrogée ?
La question de l'abrogation, on la demande toujours, puisqu'à partir du moment où on considère qu'une loi est injuste, 6 mois après, notre opinion, elle va pas avoir beaucoup changé, et surtout quand ça s'est passé comme ça s'est passé avec la loi Taubira.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire avec un refus de vrai débat, où il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, mais où il y a eu des voix qui sont élevées de la part d'un certain nombre de citoyens, qui n'ont pas été prises en compte, infiniment peu, par le gouvernement. Le mouvement, il dépasse la simple demande de l'abrogation, c'est aussi... porter l'attention sur toutes les lois qui vont concerner la famille. Il y a les lois sur la famille qui vont arriver. Il était question de la PMA, qui a été, je crois, retirée. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais c'est un tout. On peut pas se limiter qu'à lutter contre une loi. Enfin, lutter contre une loi. Non, à s'opposer à une loi. On a besoin de se battre aussi pour des choses et pas toujours contre. Et du coup, notre idée, c'est de nous battre pour la famille, pour que... Enfin, que ça devienne vraiment la société de base, comme ça l'était à l'origine dans la société, où la socialisation a commencé par la famille, et puis après, elle s'est tentée à l'école. Et on a tendance à déstructurer un peu cette manière de sociabilisation.
En quoi le mariage pour tous est un danger pour la famille, au regard des veilleurs, en réalité ?
Alors, la question qui s'est posée, c'était pas tant le fait que deux personnes homosexuelles veuillent vivre ensemble, c'était la question de l'adoption. On ne nie pas le fait qu'une personne homosexuelle peut être un bon éducateur. On considère simplement que pour grandir, un enfant a besoin de la référence du père et de la mère, et qui se construit dans la différence des sexes. Et de fait, ça complique les choses quand cette référence au père et à la mère disparaît.
Ça fait 6 mois que la loi est promulguée.
Oui.
Il y a eu des mariages entre personnes homosexuelles à Angers, en Anjou, en France, partout. Qu'est-ce que ça vous a fait ?
J'avais entendu la réponse d'un responsable de la Manif pour tous au niveau national, à qui on avait posé une question semblable, et qui avait dit qu'il souhaitait aux personnes mariées d'être heureuses. Après, la demande de l'abrogation, elle est bien sûr sans rétroactivité, on ne va pas démarier des gens qui sont mariés. Ça veut dire que ce qui est fait est fait. C'est pas pour autant que... qu'on peut continuer indéfiniment dans cette voie. Elle est passée, c'est un fait. Pour le moment, on n'y peut rien. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours demander à ce qu'elle soit retirée.
Il y a eu des propos très durs à l'encontre des personnes homosexuelles pendant justement ce débat. Il y a encore des maires qui parlent de loi naturelle. Comment vous vous positionnez par rapport à tous ces propos qui sont tenus ?
Alors, nous, on n'est absolument pas dans une démarche d'accusation, de moralisme, de je sais pas quoi. Et à ce sens-là, on condamne toute critique ouverte d'une personne ou des personnes homosexuelles du fait de leur orientation sexuelle. En ce qui concerne les mères qui refusent de marier des personnes homosexuelles, dont vous parliez tout à l'heure, il y a une démarche qui était normalement, qui aurait dû être mise en place, de la liberté de conscience d'un maire. C'est-à-dire que si un maire ne souhaite pas marier de personnes homosexuelles, parce que ça heurte sa conscience, pour quelque raison que ce soit après, on ne va pas aller voir dans les raisons, mais... il est bon que chacun puisse grandir dans sa puisse suivre sa conscience et que, de par sa fonction, il ne soit pas obligé de faire quelque chose. Ce qui n'empêche pas que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas le faire, il faut que ce soit expliqué en termes respectueux. On ne peut pas, au nom de la conscience, pas vouloir faire quelque chose et pour autant critiquer ouvertement la personne et dénoncer et condamner.
Il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens plus, il y a une petite fille qui a vendu une banane devant Christiane Taubira.
Bon, déjà, là, on dévient un peu, parce que du coup, je vais parler d'un fait qui appartient à la Manif pour tous, et on est quand même distincts, les veilleurs et la Manif pour tous. C'est le même combat, mais ce n'est pas la même manière de faire, et ce n'est pas les mêmes personnes qui organisent non plus. Après, pour revenir sur ce qui s'est passé, il y a effectivement cette histoire de la banane qui font condamner, on ne peut pas laisser faire ça. Après, je crois que ça a été saisi pas mal par la presse pour faire du bruit, quoi. Parce que, d'après des veilleurs qui étaient là-bas, qui sont allés manifester, pas en tant que veilleurs, qui sont allés manifester en tant que citoyens, cette phrase, elle a été entendue par quasiment personne, et il y a quelqu'un qui est très rapidement intervenu de la Manif pour tous pour leur dire de se taire. Ça n'a pas été repris comme un slogan général ou tous les...
C'est pas ce qu'il dit dans la presse, d'ailleurs. Hein. La vidéo montre bien un groupe d'enfants qui chantent.
C'est ça. Je pense qu'à l'origine, pour les enfants, ils trouvaient que c'était drôle et que c'était une bonne blague. C'est une blague qui n'est pas drôle. Ils n'ont sûrement pas mesuré la conséquence de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils faisaient. Je comprends que ça puisse lasser l'opinion publique. Et le but de la Manif pour tous et de ce combat, c'est absolument pas de faire un espèce de pugilat ou de je sais pas quoi, où on accuse des personnes et où on se moque de tel ou tel ministre ou telle personne.
Il vous reste beaucoup de bougies pour les veillées à venir?
Non, il va falloir qu'on fasse le stock de bougies, là, on arrive à la fin. La question derrière, c'est combien de temps on va encore durer? On a donc choisi de changer un peu notre rythme pour... pouvoir à chaque veillée faire intervenir un intervenant sur le thème qu'on va choisir. Mais j'ai envie de dire oui, les veilleurs, je pense qu'on a encore un nombre de bougies à souffler après chaque veillée. Combien, je sais pas. Avec les lois pour la famille, on risque d'avoir à faire attention et à suivre pour pouvoir éclairer, déjà pour pouvoir nous essayer de mieux les comprendre et d'en comprendre les enjeux, et puis pouvoir échanger avec d'autres sur ces lois.
Stéphane Corvin, vous avez une réaction?
Oh là, il y en aurait tellement.
Rapide.
Oui, non, mais pour dire les choses rapidement, on voit bien la difficulté pour ce garçon et pour les veilleurs de se décoller de l'image catholique. Le chant de l'espérance ou les mentions dans les textes et dans le chant au Père avec un P majuscule, si ce n'est pas catholique, ou chrétien plus exactement, mais bon, de catholique ici à Angers, on n'a pas la même définition. Donc, non, je crois que dans ces cas-là, vaut mieux assumer la couleur et puis être très clair avec les personnes. Ceci étant, oui.
Il dit bien qu'il y a des personnes catholiques.
Oui, il le dit bien. Après, véritablement, sur les arguments, bon, on pourrait gloser longtemps. Je crois que ce qui. La volonté qui est exprimée de distinguer entre les veilleurs et la manif pour tous, d'abord, il n'a pas assez regardé la vidéo, ce garçon, enfin, de minimiser ce qui s'est passé aux marches du palais de justice ou sur le côté du palais de justice, c'est vraiment dramatique parce que dans cette affaire-là, ce qui a porté quand même le coup de grâce, c'est l'interview des parents qui disent à la fin, ben non, ça sert à rien de s'excuser parce que ça a déjà été fait. Moi, je vous conseille vivement d'écouter la deuxième chronique de François Morel sur France Inter, qui est une forme d'excuse, parce que c'est vrai qu'on peut penser que l'avoir traité de cette petite fille de petite conne pouvait être de l'insulte, mais on en comprend le sens dans l'intelligence de François Morel et dans la double intelligence d'avoir présenté ses excuses à cette jeune fille, alors que cette famille n'a toujours pas présenté d'excuses. Et ça, véritablement, c'est toute la différence entre les gens qui essaient de réfléchir sur ces questions-là.
Merci Stéphane Corbin d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous.
À bientôt.
J'espère.
C'est l'heure de retrouver Anne-Marie qui va nous parler d'un terme économique obscur. Anne-Marie, tu vas nous permettre de briller en cocktail. Désormais, quand quelqu'un aura l'idée farfelue d'évoquer la Fed, nous pourrons acquiescer et même relancer. Mais en attendant, je n'y connais rien. Alors, c'est quoi la Fed ?
Alors sachez que jeudi dernier, Janet Yellen, la future directrice de la Fed, a fait un discours avec succès devant le Sénat américain. Pour info, elle a été nommée par Barack Obama pour succéder à Brian Bernanke, ça ne s'invente pas, à la tête de la Fed dès janvier 2014.
Pourquoi la Fed influence-t-elle la bourse ?
Alors, la Fed influence la bourse, oui certes, mais qu'est-ce que la Fed ? La Fed, c'est la première syllabe de Federal Reserve of System. Bon, pour ceux pas très fortiches, dans la langue de Shakespeare, on dit aussi réserve fédérale en français. C'est la banque centrale américaine. Chaque pays a sa banque centrale. En gros, une banque centrale a trois missions. Elle stabilise le système financier en régulant le système bancaire américain, par exemple en imposant que les taux d'intérêt des banques sur les crédits des ménages ne dépassent pas un certain pourcentage ou un certain montant. La banque centrale d'un pays favorise aussi le plein emploi et facilite la croissance économique. Donc voilà, vous avez les trois missions de la Fed en tête. Maintenant, c'est bien mignon, mais qui se cache derrière la Fed ? Eh bien, il y a 7 membres nommés par le président des États-Unis pour 14 ans. Après tout, c'est la banque centrale de son pays dont il s'agit. Une fois les membres nommés, ils ne peuvent pas renouveler leur mandat. Mais le rôle du président des États-Unis ne s'arrête pas là. Il doit nommer le président de la Réserve fédérale pour une période de 4 ans, qui est, elle, renouvelable. C'est certainement un des rôles les plus importants qu'exerce ici Barack Obama. Janet Yellen sera encore présidente à la Fed pendant 2 ans. Alors que le mandat d'Obama prendra fin en 2016. Elle devra donc s'adapter aux concepts et idées du nouveau président des États-Unis à partir de 2016. De toute façon, Obama ne peut pas briguer un troisième mandat présidentiel, c'est interdit. Donc il y a 8 membres en tout à la Fed, mais il n'y aura pas Anguille Soros. Eh bien ok, la Banque Centrale Américaine est indépendante des autres institutions politiques. C'est donc elle qui prend ses propres décisions sans être influencée par les politiciens. Ah là là, ce serait trop beau pour tout ça. Mais en fait, elle appartient à 12 banques, ce qui remet en question un chouïa, et pas qu'un peu, son indépendance. Bah oui, les banquiers, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du fric. Et c'est pas forcément bon pour la stabilité économique du pays.
Ouais, mais alors tu m'as toujours pas répondu, pourquoi la Fed influence-t-elle la bourse ?
Alors la Fed, elle est là pour soutenir l'économie des États-Unis. Tant que tout va pour le mieux aux States, que les banques ne font pas trop de crédit à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de rembourser, rappelez-vous de la crise des subprimes en 2007, bah le marché financier de New York, le Wall Street, c'est la rue à New York et même le quartier des affaires américains, là où la plupart des décisions financières des entreprises sont prises, du genre dans quel secteur faut-il investir, dans l'automobile ou le matériel médical, faut-il que je vende, que j'achète ou que je garde mes actions ? Si la Fed continue à supporter le dollar, la bourse de New York se portera au mieux.
Mais alors pourquoi quand Janet Yellen a fait son discours jeudi dernier, il y a eu une hausse de la bourse à Wall Street ?
Notre chère Janet a dit vouloir continuer la politique actuelle de la Fed. Et sachez que la politique de la Fed est ultra accommodante pour les entreprises. Cette politique est d'augmenter l'achat en aidant les ménages. Pas de bol, les familles sont beaucoup touchées par le chômage aux États-Unis. En octobre, 7,3% des Américains étaient au chômage. Et pour Janet, 36% de ces personnes y sont depuis plus de 6 mois. Et entre nous, vous savez que plus longtemps vous êtes au chômage, plus c'est dur d'en sortir. Bon, on en revient à la Fed et à ses fameuses aides aux ménages. Accrochez-vous, ce n'est pas encore fini. Une de ces aides aux ménages est d'imposer des taux d'intérêt assez bas aux banques qui prêtent de l'argent aux ménages. Si Janet Yellen a décidé de continuer d'aider la consommation des ménages, tout va bien pour les entreprises. Elles ont donc pu toutes souffler quand Janet a dit vouloir aider les ménages. Un grand ouf pour les entreprises qui se sentent rassurées. Car s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'achat. Et s'il n'y a pas d'achat, c'est la fin des haricots pour les entreprises. Et ce soulagement s'est évidemment fait ressentir en bourse. Tout va bien, se disent-elles. Si les consommateurs vont continuer à acheter, alors profitons-en. Achetons nous aussi en bourse. Prenons des risques. Alors les Américains ont intérêt à être reconnaissants envers Janet. Et oui, le Nasdaq, qui est le marché des actions des nouvelles technologies, a augmenté de 0,18%. Et le Dow Jones, le marché financier industriel, accumulé 0,35% de hausse jeudi soir. Juste après le discours de la future présidente, cette hausse des marchés s'est fait ressentir un peu partout dans le monde. En France, le CAC 40 a augmenté vendredi de 0,19%. Alors nous aussi, on dit merci Janet.
Moi je dis surtout merci Anne-Marie et j'ai hâte que tu nous expliques des mots comme bourse, subprimes, Nasdaq, New York et même marché financier. Vous verriez leur tête, vous prendriez peur. Charlotte et Julien n'ont pas dû beaucoup se reposer ce week-end après la défaite des Bleus lors du match de barrage aller à Kiev. Mais on se ressaisit s'il vous plaît parce qu'il y a du débrief dans l'air ce soir. Le 15 de France renoue avec la victoire en rugby. Le SCO s'impose en Coupe de France tout comme les Ducs en hockey sur glace. Première défaite pour nos basketteurs. Mais allez, je sens qu'il faut crever l'abcès. On va revenir sur ce qui vous a pourri le week-end. Le match aller du barrage de la Coupe du Monde Ukraine-France qui avait lieu vendredi soir à Kiev.
Comme vous le savez tous, nos Bleus ont perdu 2-0, au terme d'un match, comment vous dire ?
Nul.
Ouais, c'est ça, nul.
Bon, certains diront très moyen, pour rester poli, mais bon, voyons la réalité en face. Investissement, engagement et volonté sont des mots de la langue française que nos chers joueurs ne connaissent apparemment pas. Trois facteurs qui ont donc cruellement manqué à l'équipe de France de football.
Y a-t-il quelque chose à ajouter sur cette rencontre ?
Franchement, je sais pas.
Didier Deschamps a d'ailleurs dit à ses joueurs qu'ils ne s'étaient pas comportés comme s'ils jouaient pour la Coupe du Monde, et au Brésil en plus. Il est bien loin le 3-0 de 1998. Rappelons que si les Français ne passent pas les barrages, ils ne feront pas la Coupe du Monde.
Vous imaginez une Coupe du Monde, désolé d'insister, mais au Brésil quand même, sans la France ? Sans commentaire.
On a déjà perdu 2-0, il nous faut donc gagner 3-0 pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Ou au pire, gagner 2-0 et accéder aux prolongations, peut-être même au tir au but si le score reste inchangé pendant cette période. Le plus important est de ne pas prendre de but, car un but à l'extérieur compte double.
Il nous faudrait donc inscrire 4 buts si les Ukrainiens viennent à marquer au Stade de France. Reste plus qu'à nos Français de retourner la situation, d'inverser la tendance, que dis-je, de créer l'exploit tout simplement. Allez, on y croit, on est Français, Et donc on dit allez les bleus.
Ouais, j'ai dit allez les bleus. Après tout ça, on va parler des autres Français, ceux qui ont gagné. Je parle bien sûr de notre 15 de France qui jouait face au Tonga ce samedi après-midi.
La rencontre avait lieu dans le stade Océane, l'enceinte flambant neuve du Havre. Victoire facile du 15 de France, 38 à 18 dans ce match test. On a vu une équipe volontaire qui voulait se racheter de sa défaite lors de la dernière Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai que les Tonga nous avaient battus 19 à 14 en phase de poule sous les sifflets des supporters français. Comme quoi, il n'y a pas qu'au football qu'on siffle nos joueurs.
Samedi, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud, adversaire redoutable, qui a corrigé l'Écosse ce dimanche 28 à 0. Le staff, mis sur la récupération de ses joueurs cette semaine, et compte sur un état d'esprit guerrier pour vaincre les Springboks.
On passe maintenant à l'actu sportive locale, week-end de Coupe de France pour les joueurs du SCO.
Le SCO a affronté samedi dernier Mouilleron en parade, oui vous avez bien entendu, une équipe de DRH 5-1, c'est le résultat logique de ce match, avec 3 buts de Camboa, un but de Socrier et un autre de Blayac.
On félicite tout de même les Mouilleronnais d'avoir été valeureux jusqu'au bout en marquant à la 92e minute du match.
Une victoire logique, oui, mais pas pour tout le monde.
C'est vrai, on note l'élimination de plusieurs clubs de Ligue 2 ce week-end. Clermont et Le Havre s'inclinent tous deux contre une équipe de division d'honneur. L'équipe de Arles-Avignon s'est-elle faite sortir par Alès, club évoluant en CFA2. Et pour finir, Châteauroux et Tours se sont fait éliminer sur le score de 2-0 par des équipes de CFA.
Nos joueurs angevins continuent donc l'aventure en Coupe de France. Notre prochain adversaire sera connu ce mercredi. En attendant, on retrouve nos noirs et blancs vendredi soir au stade de Jean Bouin contre Clermont.
Et pour les plus fans d'entre vous, sachez que les joueurs donnent une séance de dédicace mercredi de 18h à 19h au McDonald's de Trélazé.
Et une victoire supplémentaire pour les Ducs d'Angers qui se déplaçaient à Morzine ce week-end.
Nos Ducs s'imposent 6-3 sur la glace des Pingouins et gâchent ainsi la célébration du cinquantenaire du club morzinois. Menés 1-0 à la fin du premier tiers-temps, ils ont su réagir après un discours musclé du coach à la pause.
Au retour des vestiaires, Angers remporte le deuxième tiers-temps 4-0 et s'impose facilement, notamment grâce aux 3 buts de Campbell. Les Ducs sont 4e du classement après 10 journées. Prochain rendez-vous mardi contre Toulouse pour une possible 4e victoire consécutive.
Malheureusement, nos basketteurs angevins ont subi leur première défaite de la saison à La Rochelle.
Et oui, toutes les séries ont une fin, Tiffen. Courte défaite de l'ABC 73-72 après un très mauvais début de match. Rapidement menés 15-0, nos joueurs ont su réagir pour finalement s'incliner au terme de la prolongation.
Un manque d'agressivité, voilà ce qui a fait défaut selon l'entraîneur angevin. Une défaite, mais pas catastrophique, puisqu'Angers reste quand même premier du classement de National 1 devant Monaco.
Le technicien angevin nous assure en conférence de presse que le groupe vit bien en dehors du terrain et qu'il leur faut du temps pour remonter la pente. Nous voilà rassurés, on leur souhaite des jours meilleurs dans la découverte du haut niveau.
À part ça,
en pro des deux masculines de handball, Angers-Noyant se rassure en décrochant un match nul contre Istres 21-21. Un résultat qui leur donne de l'espoir pour les prochains matchs. On espère une première victoire de ce week-end contre Vernon.
Sans transition, en roller hockey, les Hawks d'Angers s'imposent face à Aubagne sur le score de 6-3. Nos hockeyeurs sur roulette sont solidement accrochés à la 4e place du classement.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
Et c'est déjà pas mal.
J'espère que ça ira mieux lundi prochain en termes de joie de vivre et de morale d'acier. Avant de vous quitter, l'agenda de la soirée assez rapidement. Le Donald's Pub donne une soirée blind test en ce début de semaine. Si vous préférez taper le carton, ce sera soirée belote au Welsh. Et puis à l'espace culturel de l'université, Damien Simon, programmateur du Bon Accueil à Rennes, donne une conférence sur le lien entre télécommunications et art sonore. C'est à 20h et c'est gratuit. Voilà, il est l'heure de lâcher l'immersion. Aux manettes, c'était David et derrière les micros, Baptiste, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet de la radio. Tout de suite, vous retrouvez Papyrus, l'émission littéraire de Radio Campus Angers. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. C'était en juin dernier, au début de l'été, sur la place Michel Debré. Des veilleurs manifestaient contre le mariage pour tous. L'une d'entre elles raconte « Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée. » On se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
C'est une des villes où l'opposition est la plus dynamique, on va dire. Au départ, il y avait Lille. Il y a eu Montpellier, bon, ce qui peut se comprendre aussi, Toulouse aussi. Et puis voilà, Angers. La première fois, il y a eu un orchestre. C'est vrai que c'était très difficile de tenir. La dernière fois, ils étaient très bruyants et on était sur la place du ralliement et c'était difficile parce qu'on était vraiment, on se touchait quoi. Il y avait juste 50 cm avec des CRS entre nous. Cette fois, je dirais que c'est un petit peu plus vivable. Un peu plus vivable, mais bon, c'est pas grave. La population, ben, je sais pas, vous voyez déjà, il y a tous les âges. Il n'y a, bon, a pas d'enfants, c'est sûr, parce que ce n'est pas l'heure et puis ce n'est pas leur place là. Mais il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des lycéens. Bon, ce soir, ils ne sont pas là trop, les lycéens, parce qu'il y a le bac. Et puis, il y a des parents, des jeunes parents, des jeunes grands-parents. Vous voyez, il y a un peu de tout. Alors après, ben, qu'est-ce que vous avez ? Ici, on dit que c'est beaucoup... ce que les opposants crient, c'est les cathos à l'église. Bon, ils disent que c'est des cathos. Je ne suis pas sûre qu'il y ait que des gens qui soient catholiques. Je pense que ce n'est pas le but. Hein. C'est ouvert à tous. Maintenant, il y en a sans doute.
Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Radio Campus Angers, création, découverte,
et etc.